depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère indonésien des Affaires étrangères rapatriera la semaine prochaine les corps des citoyens indonésiens du Bangladesh. Le ministère des Affaires étrangères évacue 926 citoyens indonésiens du Soudan. L'Indonésie met en avant le désarmement nucléaire à l'occasion de l'anniversaire de la bombe atomique Hiroshima. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le directeur pour la protection des citoyens indonésiens du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Yuda Nugraha, a déclaré vendredi que les corps des citoyens indonésiens victimes le 5 août au Bangladesh seraient être rapatriés au début de la semaine prochaine. Le citoyen indonésien de 50 ans portant les initiales DU est décédé de suite d'un empoisonnement par la fumée lorsque l'hôtel où il séjournait a pris feu au milieu de grandes manifestations qui se déroulaient au Bangladesh.
Dan jika memungkinkan,
si possible, nous rapatrierons le corps le plus tôt possible, inshallah, lundi ou mardi de la semaine prochaine. Yuda Nugraha a déclaré que le processus de rapatriement des corps des citoyens indonésiens rencontrait des problèmes parce que les services publics des hôpitaux et de la police étaient perturbés en raison des manifestations qui ont lieu. Yuda a déclaré qu'il y avait 24 équipages de la compagnie aérienne Garuda Indonesia au Bangladesh. La présence de l'équipage de Garuda Indonesia fait partie de la collaboration commerciale entre les compagnies aériennes Garuda Indonesia et Biman Bangladesh Airlines. Selon Yuda Nugraha, le ministère indonésien des Affaires étrangères a communiqué avec Garuda Indonesia pour s'assurer que les droits de travail de l'équipage peuvent être protégés. Yuda Nugraha a ajouté que le ministère indonésien des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'ambassade à Dhaka, avait préparé des mesures d'urgence pour l'équipage si citoyens s'aggravaient. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a évacué 926 citoyens indonésiens du Soudanais après une attaque artillerie contre El Fasher, la capitale de l'État du Nord Darfour dans l'ouest de Soudan. C'est ce qu'a transmis la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, au palais présidentiel de Jakarta vendredi, après avoir accompagné le président Joko Widodo pour recevoir une visite de courtoisie du ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, Hussein Awad Ali Mohamed.
926
citoyens indonésiens ont été évacués il y a environ 40 citoyens indonésiens qui restent au Soudan et ont choisi de rester au Soudan pour des raisons professionnelles ou familiales. L'évacuation d'hier au Soudan n'a pas été une évacuation facile parce qu'elle impliquait un grand nombre et aussi la situation n'était pas très propice. Le ministre Retno Marsudi a déclaré que dans l'ordre du jour, le président Joko Widodo avait exprimé sa gratitude pour l'aide des autorités soudanaises pendant le processus d'évacuation des citoyens indonésiens. Le ministre Retno Marsudi a déclaré que la partie soudanaise a également fait savoir que les opérations de l'ambassade indonésienne, qui se déroulaient initialement à Khartoum, avaient été menées depuis Port Soudan pour des raisons de sécurité. Retno Marsudi a ajouté que le nombre de personnes qui ont fui hors du Soudan a atteint 4 millions de personnes. En plus de faire face aux tensions de la guerre, selon Retno Marsudi, le Soudan est actuellement également confronté à divers défis de santé, y compris la lutte contre la variole du sang, la dengue, le paludisme et malnutrition. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie souligne l'importance de l'engagement des pays du monde entier à abandonner et à désarmer leurs armes nucléaires dans le cadre du 79e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août. L'Indonésie continuera d'exhorter les pays qui possèdent des armes nucléaires et améliorer immédiatement leurs efforts en matière de désarmement nucléaire. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice adjointe de la République d'Indonésie au Japon, Maria Renata Hutagalung, prononcée lors de la conférence mondiale contre les bombes atomiques et à hydrogène à Hiroshima. Selon une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo reçue à Jakarta samedi, elle a expliqué que l'Indonésie continuerait et à s'engager et aussi à jouer un rôle dans l'avancement de la question du désarmement nucléaire complète pour prévenir de futures tragédies humanitaires provoquées par le nucléaire. Pour preuve de cet engagement, l'Indonésie a ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires à travers la ratification du projet de loi de traité devient loi en novembre 2023. En tant que l'un des 50 premiers pays à signer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, l'Indonésie continuera à promouvoir activement le traité auprès de la communauté mondiale. Renata encourage les autres pays à suivre les étapes de l'Indonésie en signant et en ratifiant le traité. Le conseiller du président de l'autorité palestinienne pour les affaires religieuses et juge suprême de la charia de l'autorité palestinienne, Mahmoud Al-Habas, a déclaré que l'Indonésie était cohérente dans son soutien à l'indépendance palestinienne. Cela a été transmis par Mahmoud Al-Habas après que lui et d'autres délégations palestiniennes, accompagnées d'un certain nombre de responsables du conseil exécutif de Nahdlatul Ulama, ont rencontré le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, M. Bambang Susatyo, au complexe du Parlement Senayan Jakarta vendredi. Il a déclaré que la cohérence de l'Indonésie dans son soutien à la lutte pour l'indépendance palestinienne était démontrée non seulement par le gouvernement mais aussi par son peuple. Mahmoud Al-Habas estime qu'à l'avenir, l'Indonésie continuera à soutenir constamment la Palestine jusqu'à ce que l'indépendance soit obtenue. Outre Mahmoud Al-Habas, la délégation palestinienne présente comprenait l'ambassadeur palestinien en Indonésie, Zuhair Al-Sun. Israël a accepté de continuer les négociations de cessez-le-feu à Gaza en Palestine le 15 août 2024. C'était la demande des médiateurs des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, comme l'a rapporté AFP, a déclaré vendredi que suite à la proposition des États-Unis et des médiateurs Israël du 15 août, il enverrait une délégation de négociateurs au lieu convenu pour conclure les détails de la mise en œuvre de l'accord. Auparavant, les dirigeants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte avaient invité Israël et le Hamas à poursuivre les négociations de cessez-le-feu. Ces médiateurs ont appelé Israël et le Hamas à continuer les pourparlers au Caire le 15 août. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir à tous. L'accueil diplomatique d'aujourd'hui, dont le titre est « Le dialogue interreligieux Indonésie-Éthiopie renforce l'harmonie mondiale ». Des personnalités religieuses d'Indonésie et d'Éthiopie partagent leurs expériences pour favoriser l'unité dans la diversité. Ils ont convenu que l'harmonie était un atout important pour le progrès du développement national, des relations internationales et de la paix mondiale. Cela est apparu lundi lors du dialogue interreligieux Indonésie-Éthiopie dont le thème est la diplomatie de la modération religieuse pour construire un dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux qui s'est tenu à Hawassa, à Addis Abeba, a été initié par l'ambassade de la République d'Indonésie à Addis Abeba et le ministère indonésien de la religion. L'événement a réuni 115 dirigeants et personnalités religieuses ou représentants gouvernementaux, universitaires, jeunes et dirigeants communautaires. La délégation indonésienne était dirigée par le chef de l'Agence de recherche et développement et d'éducation et de formation du ministère indonésien de la religion, Suyitno. Selon Suyitno, cette activité est très importante pour accroître la compréhension du public sur la nécessité d'efforts conjoints pour favoriser l'harmonie dans la diversité. L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Djibouti, et auprès de l'Union africaine, Al-Bushra Basnour, dans une déclaration écrite reçue par RRI.co.id mardi, a expliqué que le dialogue interreligieux avait eu lieu pour échanger des pensées et points de vue et partager d'expériences entre personnalités et dirigeants universitaires concernant l'unité dans la diversité. Al-Bushra Basnour a déclaré que ce dialogue était très historique et précieux. Il a encouragé et invité la délégation indonésienne du ministère indonésien de la religion et la commission de dialogue national éthiopienne à tenir une réunion similaire en Indonésie à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. L'équipe éthiopienne préparera sa délégation et le gouvernement indonésien à travers le ministère de la religion aidera à préparer le bon déroulement de cette activité productive. C'est tout l'accueil diplomatique d'aujourd'hui. Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 août. On commence par le 18 1945, le Japon capitule face aux Alliés. À la suite de deux bombardements atomiques alliés sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon, les 6 et 9 août 1945, le Japon a annoncé sa capitulation face aux Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale le 10 août 1945. Le Japon était prêt à se rendre aux Alliés à condition que Hirohito ne soit pas évincé de son trône d'empereur du Japon. La suite, le 10 août 1973, la restauration du temple de Borobudur a commencé. Le président Suharto a inauguré le projet de restauration du temple de Borobudur le 10 août 1973. Le projet de restauration a reçu le soutien de l'UNESCO. Citant kebudayaan.kamdikbud.go.id dans ses remarques lors de la cérémonie de restauration du temple de Borobudur le 10 août 1973, le président Suharto a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de remettre en question la restauration qui nécessitait des coûts importants, même si à cette époque l'Indonésie avait du mal à développer son économie. Le président Suharto a déclaré avec insistance que pour sauver un héritage inestimable du passé, il n'était pas approprié de calculer le pour et le contre. Selon l'accord de coopération avec l'UNESCO, le projet de restauration du temple qui imite l'univers dans la philosophie bouddhiste doit être achevé dans 10 ans. Les deux premières années furent consacrées à la construction des installations nécessaires à la restauration, tandis que les travaux proprement dits commencèrent en mai 1975. Le 10 août, la Journée nationale des anciens combattants. L'Indonésie commémore la Journée nationale des anciens combattants chaque 10 août. La création de la Journée nationale des anciens combattants a été décidée par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 août 2014. La Journée nationale des anciens combattants est célébrée pour commémorer les services et les sacrifices des anciens combattants de la République d'Indonésie qui ont combattu et défendu la souveraineté de l'État unitaire de la République d'Indonésie et ou participé à la mise en œuvre de la paix mondiale. La date du 10 août a été choisie basée sur le cessez-le-feu du 10 août 1949 après que les combattants de l'indépendance indonésienne ont combattu l'armée néerlandaise à Surakarta. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Thank you. Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé « L'Indonésie et Singapour conviennent d'une garantie des produits halal pour stimuler les exportations ». Le gouvernement d'Indonésie et de Singapour ont signé un protocole d'accord sur la garantie des produits halal. La synergie a été marquée par la signature du protocole d'accord sur la coopération en matière d'assurance qualité des produits halal. Citant le site officiel du ministère de la Religion de la République d'Indonésie, la signature du protocole d'accord a été réalisée par le chef de l'agence organisatrice de la garantie des produits halal du ministère de la Religion, M. Muhammad Aqil Irham, et le directeur général du Conseil religieux islamique de Singapour, M. Kadir Medin, à Singapour jeudi 8 août 2024. Le chef de l'agence organisatrice de la garantie des produits halal, Aqil Irham, a déclaré que ce protocole d'accord vise à encourager l'augmentation du volume des importations et des exportations entre les deux pays de matières mutuellement avantageuses, notamment pour les produits halal, ainsi qu'à renforcer, faire progresser et développer la coopération en matière d'assurance qualité des produits halal. Le protocole d'accord couvre la coopération dans le domaine de la certification halal et des logos halal entre les deux institutions sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel, conformément aux lois, réglementation et politique nationale applicables dans leurs pays respectifs. Akil Irham a expliqué que la synergie entre les autorités halal d'Indonésie et de Singapour est importante étant donné que les deux pays collaborent depuis longtemps dans divers domaines, y compris les activités commerciales de produits. L'Indonésie et Singapour font également partie du forum des ministres des religions de Brunei, d'Indonésie, de Malaisie et de Singapour, ou MABIMS. Akil a également déclaré que ce protocole d'accord visait également à saluer la première phase des obligations de certification halal qui commenceront à être mises en œuvre en octobre 2024. La certification concerne les produits alimentaires, les boissons, les matières premières, les additifs alimentaires, les matériaux auxiliaires pour produits alimentaires et boissons, ainsi que produits sous forme de services et résultats d'abattage. Le directeur général du Conseil religieux islamique de Singapour, M. Kadir Medin, a également déclaré que la synergie entre garantie des produits halal de l'Agence organisatrice de la garantie des produits halal et le Conseil religieux islamique de Singapour était une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Selon Kadir Medin, la coopération entre l'Indonésie et Singapour en matière de garantie des produits halal garantira que les produits halal sont systématiquement certifiés halal selon des normes élevées, offrant ainsi une qualité halal garantie, ce qui est très nécessaire pour garantir la disponibilité garantie des produits halal pour les consommateurs. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Driving me crazy,
honey,
because you're honey. are so lovely, I think I'm crazy.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les auditeurs de Voice of Indonesia, Kebumen est un district de la province de Java Central. L'emplacement borde le district de Banjarnegara et Wonosobo. La partie sud du district de Kebumen est constituée de plaines, tandis que la partie nord est constituée de montagnes et de collines. Cette situation géographique fait que Kebumen possède de belles attractions touristiques, comme l'attraction touristique de la colline de Pentulu Indah. La colline de Pentulu Indah est située sur la rue Pentulu Indah, Dakah Karangsambung, district de Kebumen, Java Central. Cette destination est aussi le paradis des amoureux du lever du soleil. Les visiteurs peuvent voir des chaînes de montagnes verdoyantes et de charmantes vues sur les nuages depuis le sommet de la colline. Les nuages du matin se sont parfois déplacés pour couvrir une rangée de sous-districts de Sadang, de Wonosobo et de Banjarnegara. Si vous avez de la chance, certains matins vous verrez de la brume autour de la montagne, ajoutant à l'ambiance exotique. La vue sur les vastes nuages situés plus bas que la colline donne aux visiteurs l'impression d'être au-dessus des nuages. Lorsque le soleil commence à apparaître, le magnifique paysage paraîtra encore plus beau. L'atmosphère de la colline Pentulu Indah est encore plus fraîche en raison de ses forêts de pins verts. Cette fraîcheur apporte bien sûr du confort aux touristes. Une chose qu'il est difficile d'oublier lorsque vous êtes sur Pentulu Indah est le moment où le soleil se lève. Avec en toile de fond le mont Sindoro et le mont Sumbing, la lumière du soleil change lentement la couleur du ciel et crée une vue très époustouflante. Chers auditeurs, même si la colline Pentulu Indah est située sur une colline, pour atteindre le sommet de la colline, les visiteurs n'ont pas besoin de marcher ou de grimper pendant longtemps. En effet, cette colline n'a qu'une hauteur d'environ 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Du parking jusqu'à la colline de Pentulu Indah, il ne faut que 10 minutes environ. L'accès routier est facile et bon, vous vous sentez donc à l'aise pendant le voyage. En plus d'être facile d'accès et d'offrir de belles vues, cet endroit dispose également d'un lieu de repos sous la forme d'un belvédère, d'une maison de hobbits, de divers spots photos et d'une scène de divertissement. Chers auditeurs, au charme naturel et époustouflant, cette colline est aussi le paradis des photographes amoureux de la nature. La combinaison d'un accès facile, de charmants panoramas naturels et d'installations adéquates fait de la colline Pentulu Indah un endroit dommage à manquer lorsque vous êtes en Indonésie, notamment dans la province de Java Central que vous mène.
Kusapa hari yang indah ini, embun pagi menemani. Kan ku jalani hariku, sambut semua mimpi, sambut dengan nyanyi.
Dengar suara hati berbisik, oh indahnya pagi ini. Kan ku bawa semua ini.
Cinta, dunia sedang gembira. Nada-nada irama hati riang.
Ku menyambut hariku yang baru.
Langkahkan kakimu dengan pasti.
Buang semua ragumu. Percayalah pada semua mimpi.
Ku senandungkan sebuah lagu cinta. Dunia sedang gembira.
Dunia sedang gembira. Nada-nada irama hati riang. Ku menyambut hari ini. Kan ku sambut hariku yang baru.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, retrouvez-vous au programme L'Indonésie en couleur pour accompagner votre week-end. À cette occasion, il y aura des nouvelles sur les réalisations des fils et filles indonésiens sur la scène internationale en matière de chorale d'étudiants. Le chœur étudiant de Bandung de l'Université Padjadjaran ou UNPAD, ou connu sous le nom de PSM UNPAD, vient de remporter deux médailles d'or de l'événement international Festival Choral International de Singapour 2024. Lors de l'événement qui s'est tenu le 31 juillet 2024, PSM UNPAD a réalisé une performance impressionnante et a réussi à remporter la médaille d'or dans la catégorie Mixed Voice Open avec un score de 90,10. Non seulement cela, PSM a également empoché la médaille d'or dans la catégorie Safran Open avec une note de 88,47. Une fière réussite qui rend l'Indonésie fière. Chef de l'équipe de délégation au Festival Choral International de Singapour 2024, a déclaré que les réalisations de PSM étaient le résultat du dévouement inlassable et du travail acharné de l'équipe. Pour William, cet événement est un moment très précieux, notamment pour les étudiants qui ressentent pour la première fois l'euphorie de la compétition. Pendant ce temps, le formateur principal de PSM Unpad, Arvin Zainullah, espère que cette réalisation pourra être une motivation pour PSM Unpad pour continuer à progresser et partager des expériences inspirantes avec de nombreuses personnes. Lors du Festival Choral International de Singapour 2024, Unpad PSM a interprété un certain nombre de chansons qui ont émerveillé le public. Dans la catégorie Mix Voice Open, Unpad PSM a chanté Si, Chio, Vorrei Morire, arrangé par Claudio Montaverdi, Doxologia, arrangé par Ilimitio Maniano, et Malin, arrangé par Bagus S. Utomo. Puis, dans la catégorie Musica Sacra Open, il a chanté Unser Keiner Lebet sich selber, SWV369, arrangé par André Schutz, The Conversion of Soul, arrangé par Z. Randall's Troupe, et Sanctus, arrangé par Ivan Johan. De plus, lors de la ronde du Grand Prix, Unpad PSM a interprété Fajar et Senjadu, arrangé par Ken Steven. Bon, chers auditeurs, voilà une nouvelle passionnante du Festival Choral International de Singapour 2024. Continuez à écouter Voice of Indonesia pour les dernières informations et d'autres histoires inspirantes de l'Indonésie au monde.
Gloomy face, sit here and tell me.
belle chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, dans cette édition, nous vous présentons la chanson de Kroncong intitulée Dharma Bhakti, chantée par Tania Dewi avec orchestre Kroncong Side of X. Cette chanson a été créée par Kusbini, un véritable nationaliste doté d'un esprit de patriotisme, et il s'est battu pour le pays à travers les chansons qu'il a créées. Cette chanson raconte de la lutte dans le secteur des arts en toute sincérité pour mettre en œuvre le dharma de la dévotion. Cette chanson illustre que dans le combat, il n'est pas nécessaire de lutter contre les envahisseurs, mais que l'on peut le faire en développant les arts et la culture, tout en adhérant aux fondements de l'État, à savoir le Pancasila. Cette chanson contient également un appel à l'ensemble de la nation indonésienne pour qu'elle continue à préserver les arts et la culture afin que la civilisation artistique reste en Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici Tania Dewi avec l'orchestre Kroncong Set of X dont le titre est Dharma Bhakti. Bonne écoute!
Thank you. Indonesia.
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolong
entah di mana dirimu berada.
chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.